Et c'est Arlette Chabot. Bonjour Arlette.
Bonjour à vous tous.
Alors peut-être que la menace, Arlette, peut-être que la menace de guerre s'éloigne en Ukraine. En tout cas, il y a eu ces échanges téléphoniques. On va voir comment tout ça évolue. Mais ça peut ouvrir une nouvelle séquence et permettre au président de la République, Emmanuel Macron, d'annoncer officiellement sa candidature à l'élection présidentielle. Sans doute une affaire de jour, parce qu'on sait qu'il y a la date butoir en même temps du 4 mars, dans 15 jours.
Oui, alors on va dire que la fenêtre s'entrouve seulement, parce que c'est vrai que la séquence ukrainienne est loin d'être terminée. Ça sera sans doute terminé le jour où il y aura la poignée de main entre Biden et Poutine. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron, qui a dit qu'il sera président jusqu'au dernier quart d'heure, n'a pas l'intention d'être en dehors de la photo. Il conduira sa médiation jusqu'au bout. Alors vous savez, on disait, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui disait qu'il fallait entre 30 et 50 jours pour informer les Français. Il disait ça en 1980. Aujourd'hui, on est donc à 47 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Et le recordman, c'est François Mitterrand qui avait attendu le 22 mars, effectivement, pour dire tout simplement « oui, je suis candidat ». Alors, Emmanuel Macron, lui aussi, c'est une candidature implicite. Néanmoins, on va en parler. Il devra bien débattre parce que une présidence, c'est un mandat de plus, c'est pas une reconduction tacite comme on le fait pour un bail de location. Mais la seconde question est la plus importante, c'est de dire pourquoi on est candidat, pourquoi briguer un second mandat. Alors quand on regarde encore dans le passé, on est très étonné parce que les présidents sortants veulent d'abord protéger les Français, protéger la France contre quoi ? Contre le désordre, disait Valéry Giscard d'Estaing. Le désordre, c'était l'arrivée de la gauche au pouvoir, les socialistes et les communistes. Jacques Chirac, par exemple, lui était la cible de François Mitterrand qui, se déclarant, voulait éviter qu'arrivent au pouvoir les bandes, les factieux, ceux qui veulent tout le pouvoir et menaceraient les libertés. Voilà, Nicolas Sarkozy avait trouvé un autre registre qui pourrait convenir à Emmanuel Macron. Après avoir traversé des crises comme la Géorgie ou la crise financière, il avait tout simplement dit qu'il ne pouvait pas être le capitaine qui allait abandonner le navire en pleine tempête. Alors je pense qu'il n'y aura rien de tout ça chez Emmanuel Macron. Il va plutôt reprendre le fil quand il se déclarera de la campagne d'il y a 5 ans, c'est-à-dire un discours volontariste, optimiste, pour projeter la France dans l'avenir, bref, en total décalage et en totale opposition avec les nostalgistes, néclinistes, passéistes, c'est dur en liste, comme Éric Zemmour, vous savez, la campagne des morts-vivants, comme l'appelle Gabriel Attal.
Oui, alors que peut changer l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron ?
Alors c'est une bonne question. D'abord pour lui, impossible à dire. Dans le passé, là aussi, ça a été contradictoire. Petit coup de booster ou au contraire, effet négatif lié justement au changement de statut de président à candidat. Pour l'instant, en tout cas, les enquêtes d'opinion lui sont, on le sait, très favorables. Il a une confortable avance. Néanmoins, cible tous ses adversaires. Il devra s'expliquer, interpeller, interroger sur les réformes ratées, les retraites, sur le réveil tardif, sur l'immigration, la sécurité, la laïcité, donner des réponses sur le pouvoir d'achat. C'est vrai que la vraie campagne commencera vraiment. Mais, moi je dirais que ses adversaires ont eu bien tort de ne pas profiter de cette période hors Macron pour développer, matraquer, faire passer leurs mesures les plus spectaculaires. Il y en a quelques-uns qui ont compris quand même. On pourrait citer justement à nouveau Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon. S'il y en a d'autres, je ne les vois pas mieux.
Merci Arlette Chabot. On en reparlera aussi avec notre invité politique du petit déjeuner de la présidentielle qui sera avec nous pendant une heure, de 8h à 9h. C'est Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière.
Restez avec nous, vos témoignages 0826 300 300, et c'est Alain qui nous appelle de Lyon. Bonjour Alain.
Bonjour Alain.
Bonjour.
Bonjour Alain, je crois que c'est évidemment l'accident de chasse ce week-end qui vous fait réagir.
Oui, il y a plusieurs choses qui me font réagir, c'est-à-dire que tout à l'heure vous aviez un invité qui défendait le côté des chasseurs.
Oui, oui.
Il était déjà passé à la partie technique, c'est un manque d'organisation, ainsi de suite.
Oui.
Moi je trouve quand même il y a une personne qui est morte là-dedans,
c'est vrai.
Faut quand même un minimum montrer de condescendance.
Oui.
Et deuxièmement, il y a une personne dont on ne parle pas, c'est la jeune fille qui a tiré. Elle a 17 ans, sa vie commençait, elle a tué quelqu'un.
Ouais.
Sa vie à 17 ans, elle est finie.
Ouais, c'est
vrai. Vous vous rendez compte, les prochains mois, les prochaines années qu'elle va vivre, elle va... Et pas un mot, les chasseurs, pas un mot là-dessus.
Ouais,
Moi, personnellement, ça me choque.
Ouais, oui. Ouais. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas non plus interrogé en ce sens, hein, de ce représentant. Je l'ai interrogé sur, justement, les raisons et ce qu'il faut faire pour éviter toujours de tels drames, mais vous avez raison. Est-ce que vous, vous êtes favorable toujours à la chasse ou alors en revoyant aussi peut-être l'encadrement?
Ah non, moi j'ai 63 ans, mon père était de la ville, ma mère était de la campagne, donc je connais aussi bien la ville que la campagne. Moi je me rappelle quand on était tout gosse, nos parents, quand les chasses commençaient, ils nous disaient n'allez plus vous promener dehors, où il y avait des grands espaces, des grands champs, des marais, des machins, où on allait faire du vélo, on avait interdiction d'y aller. On avait 3-4 ans, je parle des années 60. Et je vais donner un autre exemple, il y a une quinzaine d'années, je suis allé acheter un chien chez un éleveur dans la Seine-et-Marne, dans un petit village, donc on y va. On va repasser la semaine suivante, donc le coin était joli, donc on en profite pour faire un petit tour en voiture. À un moment donné, on aperçoit très loin, je sais pas, 500-600 mètres dans les champs des chasseurs, puis on voit loin devant eux un gros gibier qui court. Donc nous, on fait demi-tour parce qu'on n'avait pas envie de voir un animal se faire tuer devant nous. Et 2-3 minutes plus tard, on voit une personne au milieu de la rue qui nous fait signe, donc on s'arrête, il commence à nous engueuler en nous disant « ça vous amuse de faire fuir le gibier ?» On est en voiture sur une route goudronnée, encore on aurait été dans le chemin de terre, on était sur une route goudronnée.
La cohabitation n'est pas toujours simple.
Oui, oui.
Non, mais là, on n'était même pas en cohabitation.
Non,
on se promenait tranquillement sur une route, quoi.
Complètement.
On s'est engueulé. Ça montre comme une attitude très particulière, quoi, une mentalité. La jeune fille, je pense qu'ils n'en parlent pas. Vous dites que vous n'avez pas posé de questions. Il y a aussi peut-être un manque d'empathie de leur côté.
Bien sûr, non, mais évidemment, c'est à eux de rendre hommage. Alors, ils l'ont fait quand même un peu hier, mais davantage. Merci, Alain, pour votre réaction du côté de Lyon, 0826-300-300. Si vous voulez réagir justement à l'actualité, vous n'hésitez pas. Vous avez la parole. Dans un instant, Sud Radio vous explique. On va essayer de tout vous dire autour de cette crise. Menace de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que, oui, il y a une menace de guerre? Quel est le rôle de l'Europe également et puis de Joe Biden? On voit ça dans un instant.
Et à tout de suite, il est 7h45.